Vous avez pas eu de contact vraiment avec votre grand-père, vos grands-parents en fait, tant qu'enfant, mais vous avez découvert l'histoire de votre grand-père par coïncidence.
Par coïncidence, tout à fait, par la presse, quand je lisais un article il y a seulement 10 ans, où j'ai découvert quelle était la vraie fonction de mon grand-père pendant le régime franquiste.
Vous avez choisi en fait de rendre compte de ce qui a fait votre grand-père, mais non pas vraiment sous forme d'une documentation proprement dite, mais plutôt sous forme d'un roman.
Oui, sous forme d'un roman, parce que mon désir, c'était d'arriver à un plus grand nombre de lecteurs. L'histoire est parfois un peu difficile à lire, donc j'ai voulu convertir cette histoire en un roman où le lecteur puisse suivre les personnages, leur développement, mais finalement, ces personnages sont pour la plupart des vrais personnages historiques.
Bon, il y a une grande coïncidence dans le roman qui va intéresser sûrement aussi ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de la résistance française, c'est Jean Moulin, qui par pure coïncidence, en fait, cette connexion avec Pedro Urraca, à travers de la belle-mère de Pedro Urraca, qui louait une chambre à Antoinette Saxe, qui devenait après l'amante de Jean Moulin.
Oui, tout à fait. Antoinette Sage, elle était locataire d'un grand appartement quand même, d'un immeuble de la belle-mère de Pedro Urraca depuis l'année 1934. À partir de 1936, elle est engagée avec Jean Moulin. Et de ce fait, quand Jean Moulin est devenu un résistant, elle l'aidait dans ses travaux de la résistance. Mais comme elle était juive, à partir de 1942, la famille Urraca voulait reprendre cet appartement qu'elle avait en location pour s'installer eux-mêmes. Donc elle était convaincue que le fait de sa propre persécution par la Gestapo et aussi la capture de Jean Moulin et d'autres résistants à Caluire a été en fait motivé par cet intérêt qu'avait Pedro Urraca à la poursuivre à elle-même. Mais comme par hasard, elle était aussi l'amante de Jean Moulin, que la Gestapo serait arrivée à le capturer à cause d'elle.
Donc en fait, cette coïncidence aurait coûté la vie à Jean Moulin.
Tout à fait, tout à fait. Malheureusement, oui. Et c'est ce que j'aimerais que les historiens français rouvrent les recherches sur ce qui s'est passé exactement à Caluire, puisqu'il y a eu toujours des doutes sur quelle était la réalité de cette capture, si c'était un des résistants qui avait donné la réunion, ou peut-être d'autres faits qui. Ça pourrait être que Pedro Urraca ait ouvert la piste à la Gestapo pour capturer Jean Moulin. Jean Moulin, il faut savoir qu'avant d'être résistant, il était un membre du gouvernement français. Il était l'assistant de Pierre Cotte, qui était le premier ministre de l'aviation française. Et qu'au moment où la guerre d'Espagne commence en juillet et août 1936, Jean Moulin était le chargé de la livraison d'armes à la République espagnole. Alors, mon grand doute, c'est que l'attaché militaire de la République, M. Barroso, était en 1936 en poste à l'ambassade en Espagne, mais c'est exact, il était à la fin du putsch de Franco. Et donc, il était aussi l'attaché militaire pendant le franquisme. Donc, il connaissait très bien qui était Jean Moulin et quelle avait été sa responsabilité de la livraison d'armement à la République. Et comme cet attaché militaire, M. Barroso et Pedro Urraca, collaboraient puisqu'ils étaient à l'ambassade, je crains que peut-être Pedro Urraca connaissait aussi cette fonction de Jean Moulin pendant l'année juillet-août de 1936. Donc le fait qu'il y ait la coïncidence qu'il soit l'amant d'Antoinette Sage et en plus quelqu'un de responsable contre les franquistes ait vraiment mis plus d'intérêt à le capturer.
Pedro Urraca, ce n'était pas n'importe qui, ce n'était pas un petit fonctionnaire, c'était vraiment quelqu'un qui était important.
Bon, il était important du point de vue de la répression franquiste, puisque c'est vrai qu'il n'était qu'un agent de police, mais c'était l'agent de police répressive à Paris pendant la drôle de guerre et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était la personne qui était à la charge d'organiser tout ce système en collaboration avec la Gestapo et la police du régime de Vichy, de la poursuite des républicains espagnols qui étaient réfugiés en France. Donc oui, il était responsable de tout ce système de poursuite. Donc c'est pour ça qu'il a quand même un rôle déterminant.
Une chose qui frappe beaucoup, c'est la collaboration très étroite, il semble, entre les trois régimes. D'un côté, le régime franquiste en Espagne, l'Allemagne nazie et aussi le régime de Vichy, qui était en fait...
philo-nazi, oui. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai découvert, cette implication de l'Espagne aussi dans une certaine participation dans la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout la liberté et l'impunité dans laquelle les franquistes se déplaçaient en France, soit la partie occupée ou soit la partie non occupée, puisque les trois polices avaient le même but, qui était l'extermination de leurs ennemis. Pour les uns, c'était les républicains qui étaient là-bas exilés, pour les autres c'était les juifs ou les résistants. Mais donc ils collaboraient très étroitement, en se passant de l'information ou en facilitant la tâche de l'autre police.
Quel a été le sort de Pedro Urraca après la guerre ?
Bon, après la guerre, il a quitté la France justement le jour de la fin de la guerre. Il est rentré en Espagne pour quelques mois. À ce moment-là, il y avait déjà Antoinette Sache qui avait introduit le procès par lequel Pedro Urraca est après condamné à mort in absentia en France. Mais le gouvernement franquiste espagnol l'a détaché à Bruxelles, à l'ambassade d'Espagne. Il a retiré de son nom ce Pedro Urraca. Donc à partir de ce moment-là, il ne se faisait appeler que Pedro Rendueles. Et cette couverture l'a permis de travailler et de persécuter aussi les communistes espagnols qui étaient réfugiés en Belgique jusqu'à les années 86 plus ou moins. Donc bien rentrer la transition espagnole avec déjà un gouvernement socialiste.
Il s'agit quand même de votre famille.
Oui.
C'est sûrement, ça doit avoir pris du courage pour affronter votre grand-père, que vous n'avez pas vraiment connu, mais quand même avec votre grand-père, vous avez le même nom de famille, vous risquez aussi d'être mis en liaison avec lui.
Et c'est justement ça qui m'a poussée vraiment à écrire, parce que quand j'ai appris cette histoire, non seulement j'ai ressenti cette grande honte, non, mais c'est que ce nom de Urraca, hein, il est très rare. Alors j'ai immédiatement compris qu'il serait très facile d'être repéré, puisqu'il y a très peu de personnes en Espagne qui portent ce nom. Donc j'ai le même nom que lui, je ne l'ai pas connu, je n'ai aucune de ses idées, mais je pressentais que quelqu'un pourrait me retrouver un jour et me demander des explications, puisque la logique fait qu'un petit enfant ait grandi à côté de ses grands-parents. Dans mon cas, ce n'était pas du tout le cas, mais j'avais ce besoin de désaffiliation, de casser, de rompre ce lien qui pourrait être très logiquement fait par tout le monde, mais pour publiquement exprimer ma honte et ma volonté de comprendre, que les autres comprennent que je sentais ou que j'étais à côté d'eux dans la douleur des représaliés, et que je comprends très bien pourquoi toutes ces personnes ont un besoin tout à fait légitime de récupérer les morts qui sont encore enterrés dans les fosses communes ou au bord des routes. Mais je ne voulais pas du tout que quelqu'un puisse faire un lien affectif entre cette personne qui se nomme Pedro Urraca, qui, il est vrai, c'est mon grand-père, mais avec qui je n'ai absolument aucune attache.